Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême avec Sylvain Savoya et Fabrice Herr. Bonsoir.
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 On est là pour parler histoire, un sujet très sérieux que vous avez réussi à vulgariser, on va dire dans un premier temps plutôt pour un public jeunesse. Pour autant, ça peut se lire à tout âge, puisque tout le monde n'est pas forcément érudit en la matière. Comment est né le projet qui existe depuis déjà quelques volumes du coup aux éditions Dupuis ?
Le projet est né dans l'esprit d'abord de notre éditeur, Frédéric Nifle, qui est celui qui a porté ce projet depuis le début, qu'il a imaginé, qu'il a pensé. Je crois qu'il a finalisé le principe avec Lewis Trondheim, qui joue le rôle de directeur d'écriture ici aussi avec Frédéric Nifle. Et sont eux qui ont constitué comme ça l'équipe d'abord en sollicitant Sylvain Savoya et puis en venant me trouver aussi, puisque personnellement je fais de la bande dessinée et également je suis professeur d'histoire, donc ça permettait effectivement d'allier ces deux compétences.
Le format, assez petit on va dire, 42 pages à chaque fois, du coup ça vous permet de faire de la bande dessinée mais avec des contraintes un peu différentes, on n'est pas sur du case par case par exemple, c'est quelque chose du coup qui est plus libre ou au contraire comme il y a un cahier des charges à respecter sur chaque volume, ça vous rajoute des contraintes?
Alors, il y a un cahier des charges, forcément, parce qu'on a droit à un certain nombre de planches de bande dessinée et un certain nombre de pages pour faire un dossier complémentaire en fin d'album. Le format, il est pensé pour être adapté aux jeunes lecteurs, aux très jeunes lecteurs, ce qui permet de pas être impressionné par un grand album qui pourrait être éventuellement difficile à lire, long à lire. C'est pas un objet qui fait peur, mais c'est plutôt un objet plutôt bien fini et qui donne envie d'être collectionné, qui donne envie d'avoir une encyclopédie chez soi de ces petits format qui aborde un thème différent à chaque fois. La contrainte, elle est bien sûr au niveau de la pagination, elle est au niveau du format, ce qui nous permet d'être synthétique dans les pages, je pense. Et puis, ça nous évite de nous perdre aussi dans trop de détails dans l'histoire. Fabrice répondra aussi derrière moi, mais je pense que ça oblige à faire un choix, un biais de narration en fait. On peut pas tout raconter quand on s'attaque à un sujet. On est obligé de choisir vraiment une manière de rentrer dans le vif du sujet et de pas être exhaustif, mais par contre d'être vraiment efficace sur la manière dont on va le traiter.
Oui, d'une manière générale, d'ailleurs, le format, c'est quelque chose qui influe sur la narration qu'on va choisir. Là, pour le coup, c'est très contraint. 32 pages de petit format pour faire le tour d'une question, c'est presque un défi, quoi. Et moi, ça m'a petit à petit, il a fallu quelques numéros pour prendre le pli vraiment. Sa condition d'écriture maintenant, ma façon d'aborder chaque sujet, d'aller chercher des informations et de structurer le récit aussi en un seul fil d'un seul tenant, comme le laisse entendre la collection d'ailleurs, puisqu'on va suivre effectivement un fil chronologique ou thématique, mais justement de passer par des phases, qui sont distingué par double page par exemple, ou par un ensemble de pages. Donc ça donne, je pense, un rythme qui est très vivant à tout ça. Il n'y a pas de temps mort. On suit vraiment les deux enfants qui sont nos guides dans ce récit, Ariane et Nino, suivant ce rythme très rapide qui entraîne le lecteur aussi.
Je pense que c'est un intérêt effectivement pour les enfants de ne pas être impressionnés par des pages trop chargées aussi, parce que je repense à toutes ces collections qui ont déjà existé, comme l'Histoire de France et tout ça, qui étaient des bons albums aussi, j'ai appris beaucoup de choses dedans, mais qui étaient hyper chargés et parfois pas forcément très lisibles. Là, on a quelque chose qui marque directement l'esprit des lecteurs.
Le choix justement d'avoir Ariane et Nino qui sont là au début, sont là à la fin, alors on les voit aussi voyager à travers le temps, ils apparaissent sur les dessins, avec un côté, il y a une information qui est donnée, il y a une éducation qui est donnée, et en même temps il y a beaucoup d'humour. C'était dans le cahier des charges qui a été livré au tout départ, ou c'est des choses que vous avez mis vous, c'est votre patte ça ?
Non, ça faisait partie du cahier des charges qui, d'une manière plus globale, c'était on va apprendre des choses, mais on va se divertir, quoi. Enfin, il faut qu'on passe un bon moment. Par ailleurs, moi, je vous ai dit que j'étais auteur, je suis auteur de bande dessinée comique à gros nez, quoi. Donc, j'ai du mal à imaginer de faire une histoire où il n'y ait pas des gags. Je suis obligé de me réfréner. Au début, je mettais des gags partout, quoi. C'est-à-dire que dans les personnages que croisent Ariane et Nino, que ce sont les personnages du passé. Et là, on m'a bien expliqué, non, que le principe, c'est justement que ces personnages du passé devaient respecter la réalité historique et on pouvait pas faire un Gaulois qui se met à faire une vanne, quoi. Donc l'humour est tenu uniquement par la relation entre Nino et sa sœur, et Nino qui est l'élément un petit peu plus turbulent, quoi, les plus énergiques, et puis il porte un regard plus distancé parce que lui il sait pas encore, mais qui peut être un regard justement intéressant aussi, parce que quand on pose un regard ironique sur l'histoire, c'est aussi prendre un peu de distance et mieux comprendre certains paradoxes ou certaines logiques parfois dans le passé.
Pour revenir sur le découpage justement au niveau du temps, alors quand on parle des Vikings, la période est assez longue, mais finalement on arrive à bien couper. Quand on s'attaque par contre aux dinosaures, réussir à résumer des millions d'années, là la coupure elle est pas forcément évidente. Vous faites le choix ensemble ou vous faites confiance, enfin comment ça s'organise du coup? Scénario d'abord, dessin après, ou c'est un jeu de ping-pong?
On fait un choix déjà de thèmes, effectivement, on parle des thèmes qui sont importants et essentiels à aborder, ça c'est, il y en a plein qu'on peut pas éviter. Après on parle aussi des thèmes qu'on a vraiment envie d'aborder, ceux que Fabrice a envie de raconter, ceux que moi j'ai envie de dessiner. Et après il y a le biais, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment une manière d'entrer dans cette partie de l'histoire, et notamment pour les dinosaures, en fait on raconte pas les dinosaures, on raconte la découverte des dinosaures, c'est-à-dire qu'on raconte le moment où on s'est rendu compte qu'il existait des créatures géantes avant l'arrivée de l'homme, puisqu'ils se sont jamais rencontrés. Et c'est quelque chose de très récent dans l'histoire humaine. Donc c'était extrêmement intéressant, en fait, ce moment de découverte. Et finalement, on n'y pense pas tellement. Quand on parle des dinosaures, on a l'impression que c'est quelque chose d'acquis depuis très longtemps, alors que non. Donc ça nous semblait intéressant de l'aborder de cette manière-là. Donc je pense qu'effectivement, il y a une partie un peu de ping-pong au départ, quand on doit choisir le thème. Après, moi, je m'occupe pas du tout du scénario. C'est vraiment Fabrice qui va écrire, qui va se plonger dans la documentation et dans l'écriture, et éventuellement aborder toute cette partie-là avec Frédéric Niffle et peut-être Lewis Trondheim. Moi, je me concentre sur le dessin, ce qui est déjà suffisamment conséquent, puisque on fait généralement un album. Enfin, Fabrice met un mois à écrire le scénario, je mets un mois à le dessiner. Donc, on a un rythme quand même qui est très soutenu.
La communication s'est faite beaucoup au début, à la création de la collection, pour qu'on sache très bien quelle était la place de chacun, comment fonctionner, parce que le rythme, effectivement, est assez rapide. Et donc, tout le travail d'écriture s'est fait, effectivement, d'abord avec Lewis Trondheim et Frédéric Niffle. On se met d'accord. On n'a presque plus besoin de le faire maintenant, sur le nouveau tome. On se fait confiance. Moi, j'ai compris à peu près ce qu'on attendait. Et une fois que le scénario est fait, je leur soumets. Après validation, le dessin est réalisé. Quand je fais ce scénario, j'essaie de penser à Sylvain, donc de lui mettre des foules de 3000 soldats en costume du 15e siècle, ça me paraît pas mal quoi, au Japon.
C'est là où je m'en sors en fait, c'est qu'on a choisi quand même un dessin qui est relativement simplifié, synthétique en tout cas, qui n'est pas dans l'hyper-réalisme, parce que ce serait absolument impossible de réaliser ça comme ça. Et en plus, ça serait contre-productif parce qu'on aurait trop d'informations dans les images et l'information réelle ne passerait pas. Donc on a un dessin qui permet d'évoquer peut-être plus que de montrer parfois. Mais le gros avantage de cette collaboration à deux, c'est effectivement, comme le dit Fabrice, c'est que c'est aussi un dessinateur de bande dessinée. Et donc il a une vision extrêmement graphique des pages dès qu'il est en train de créer le scénario, ce qui, moi, me simplifie quand même beaucoup le travail et qui me permet de rebondir sur sa première vision. Donc il y a un vrai échange déjà graphique dès le départ.
Sur l'histoire, on sait qu'on redécouvre régulièrement des choses. Alors je vais reparler des dinosaures. On sait que maintenant certains avaient des plumes, ce qu'on ne savait pas il y a 20 ans encore, sur la période Moyen-Âge. Justement, l'ouvrage sur les Vikings tombe très bien maintenant, puisqu'on a redécouvert plein de choses. On sait rien que le mot de viking, c'est pas tous des brutes sanguinaires. C'est un plaisir du coup de pouvoir, remettre des vraies informations entre les mains de générations qui ont appris en gros n'importe quoi à l'école.
Non, pas à l'école, monsieur, excusez-moi. Je suis enseignant d'histoire-géographie. Nous n'enseignons pas n'importe quoi. En fait, dans ces livres, on a introduit une chose qu'on essaie de faire aussi à l'école, et pour lequel on manque parfois de temps, souvent d'attention de la part des élèves qui nous disent « Ah, vous n'avez pas dit ça ?» Bah si, je l'ai dit, mais vous n'avez pas écouté. Dans les livres, au moins, ça y est. Ce qui est important, c'est effectivement, on parle de découvertes récentes, et j'essaie d'introduire aussi des questionnements qu'il y a, c'est-à-dire, quand on parle des pyramides, de dire, voilà, il y a encore des gens qui travaillent dessus, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors, on essaie de ne pas le faire de manière trop marquée par le temps, parce que ces livres, on ne peut pas les actualiser tous les 6 mois, si vous voulez, mais de dire, il y a des questions qui se posent dans ce domaine-là. La question des plumes des dinosaures aussi, de la couleur de la peau qu'ils avaient. À l'heure actuelle, on nous dit que c'est impossible de savoir si leurs écailles avaient des couleurs. Peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, on aura trouvé un moyen de le faire. Donc ces questions-là sont importantes, ne serait-ce que pour bien dire aux enfants que l'histoire n'est pas écrite une fois pour toutes et qu'il n'y a pas de position péremptoire. Ariane, c'est une grande sœur qui sait un certain nombre de choses, mais qui ne peut montrer que le champ qu'elle fait explorer là. Voilà.
L'histoire est en fait en mouvement permanent. On a l'impression que c'est quelque chose de définitif par rapport à ce qu'on sait déjà, mais non, les connaissances peuvent être remises en cause. Et on a eu un petit exemple comme ça quand on travaillait sur la pyramide de Khéops. Après avoir terminé l'album, presque au moment de l'imprimer, en fait, il est sorti une information dans la presse comme quoi il y avait une chambre mystérieuse qui avait été découverte dans la pyramide. Et donc, on a arrêté tout et on a redessiné cette page-là en l'intégrant parce que c'était important. Donc, on l'a laissé comme étant une chambre mystérieuse parce qu'on n'a pas la réponse exacte. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on se doit d'intégrer aussi dans la bande dessinée.
C'est toute l'importance du coup des petits bonus, enfin des cahiers à la fin, pour justement dire voilà, on vous a dégrossi le travail, façon de parler, et puis après à vous d'aller chercher et justement de faire l'effort intellectuel de creuser si le thème vous intéresse.
Oui, exactement. Là, cette volonté est très nette de servir de point de départ, aussi bien à titre individuel pour un enfant qui est curieux, qu'à titre collectif, puisque on serait vraiment très heureux si les écoles utilisaient ces albums aussi comme support, un des supports, bien sûr, hein, puisque l'enseignant fait des choix divers. Et ça ouvre vers un travail, voilà, individuel ou collectif, qui montre qu'il y a de la complexité aussi, qui montre aussi le travail qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a des éléments sur les Vikings, je crois, on parle des recherches archéologiques, la manière dont ça se passe, sur les dinosaures aussi. Donc d'expliquer, ben, voilà, que tout ça, c'est le résultat de tout un processus, et que ce processus, ben, chacun d'entre nous peut y participer à titre individuel pour sa propre culture, ou pour, ben, voilà, on espère que ses enfants aussi auront envie plus tard, hein, de faire avancer la recherche historique.
Et puis on essaye aussi, je pense, de rétablir certaines vérités, ou en tout cas d'oublier des idées fausses, à la fois dans l'histoire, dans les faits historiques, ou même de manière visuelle, comme ce mythe où on pensait que les casques des Gaulois avaient des ailes sur les casques, et en fait non, pas du tout, c'était juste des protège-joues qui étaient relevés. Donc voilà, c'est des petites choses, mais qui permettent aussi de rétablir une vérité de l'histoire.
Vous avez redécouvert des choses, justement, en faisant ces albums-là ?
Moi, énormément. Ouais. D'abord, il y a des sujets sur lesquels je ne m'étais jamais penché en tant que professionnel, parce que ça ne fait pas partie de ce que j'enseigne. Et puis ensuite, on se fait confiance aussi sur un certain nombre de choses, qui sont effectivement des reconstructions. Tout ce qui est gaulois, viking, on vit énormément sur les représentations qui étaient faites au 19e siècle. On ne se rend pas compte à quel point, sur les costumes, sur les attitudes, qui nous disent beaucoup plus de choses sur le 19e siècle que sur le 10e siècle ou le 2e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est vraiment très vivifiant, même pour soi, de le faire. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Je continue à apprendre beaucoup de choses.
Oui, c'est vraiment une source de connaissances extraordinaire pour nous aussi. Enfin, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que j'avais l'impression de connaître beaucoup de choses, mais que je n'étais pas forcément capable de les remettre en cohérence les unes avec les autres. Et ça, c'est vraiment un truc qui apparaît au fur et à mesure qu'on travaille ensemble. Et en plus, dans les histoires que l'on met en scène, il y a des choses qui se recoupent, donc qui viennent apporter un nouvel élément du puzzle, et ça permet de vraiment reconstruire une vision globale de l'histoire. Donc ça, c'est extrêmement important.
Donc là, le prochain volume, c'est sur les samouraïs. Vous disiez que vous aviez un rythme de travail quand même assez important. Vous avez, on va dire, carte blanche jusqu'à plus soif pour sortir un album tous les trimestres.
On est parti sur l'idée d'en faire déjà 100 et après on verra.
Pour 2020.
Non, mais c'est vrai qu'on avance avec un rythme assez effréné. Là, on vient de terminer les samouraïs et je suis en train de dessiner les premiers pas sur la Lune pendant que Fabrice est en train de penser au prochain sur Napoléon. Donc voilà, c'est vraiment un travail en permanence. Tout à fait.
Oui, et le plus dur pour moi, c'est de ne plus penser à ceux qui sont déjà réalisé, parce que comme pour la pyramide, chaque jour on trouve des trucs, oui. Et en plus du coup on devient beaucoup plus attentif à tout ça, ouais. Ça c'est étonnant aussi, il y a des choses qui... enfin, j'ai l'impression depuis qu'on fait ça qu'il y a plein de découvertes tous les jours.
Exactement.
Voilà, ça c'est un phénomène évidemment très subjectif, mais ça aussi, enfin, je crois que c'est quelque chose, une petite série comme ça, elle peut faire naître un intérêt chez les enfants et les ouvrir à autre chose. Donc, ça me paraît vraiment hyper important.
Ça développe l'attention, on a l'impression d'avoir des antennes en permanence prêtes à recevoir tout ça.
Les gens qui viennent vous voir en dédicace, c'est des enfants, des adultes avec des enfants parce que l'enfant est l'excuse, ça se passe comment ?
Alors en dédicace, c'est vraiment très particulier, ça dépend beaucoup aussi de l'endroit, de la manifestation aussi. Concrètement, à Angoulême, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent pour la dédicace sur Ariane et Nino parce que c'est un livre... C'est un petit livre, c'est un livre d'apprentissage, et c'est un livre encyclopédique, et on n'est pas du tout dans le bel objet, grand objet, on va avoir un beau dessin original d'un auteur. Il y a quand même énormément de chasseurs de dédicaces à Angoulême, et c'est clairement pas le public visé. Par contre, quand on fait des salons du livre, notamment, ou des salons de jeunesse, là, il y a vraiment un public familial, et des enfants qui sont intéressés, qui viennent vraiment soit seuls, soit avec leur famille, soit en groupe d'enfants. Et qui sont très curieux, très demandeurs, qui hésitent beaucoup à en prendre un, deux, trois différents, qui feuillettent et qui posent beaucoup de questions. Et ça, c'est extrêmement rassurant de voir que les enfants sont très ouverts et ont vraiment envie de connaître. Et notamment quand on fait des rencontres scolaires aussi, on l'a fait encore il y a deux jours tous les deux. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant pour nous de nous rendre compte que il y a une attente et qu'il y a vraiment un intérêt très très fort de la part de ces enfants. On a tendance à les penser passifs alors qu'ils ne le sont pas. C'est vraiment ils sont en pleine réflexion, ils ont beaucoup de questions à poser et ça c'est vraiment passionnant.
On va vous proposer d'emprunter un chemin ou une voie. C'est-à-dire que je vous propose soit de partir, donc deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, d'emprunter le chemin de briques jaunes, les Stairway to Heaven, ou la Highway to Hell, ou sinon de partir vers l'infini et au-delà.
Alors attendez, Peter Pan et le magicien d'Oz, moi c'est des trucs qui ont eu tendance à me faire hyper peur petit, le capitaine Crochet, son crocodile, et ses gosses perdus sur une île, enfin c'était vraiment un cauchemar. Et quand Loisel a fait son Peter Pan, ça m'a libéré de quelque chose, moi, je me suis dit, ah ben voilà enfin quelqu'un qui montre le vrai visage de ce truc. Le magicien d'Oz, je trouvais ça hyper flippant, ces personnages aussi, avec un sourire figé. Donc j'ai pas du tout été sensible à tout ça et je choisirais peut-être ACDC, mais j'aurais une préférence quand même pour Led Zeppelin plutôt. Oui.
J'allais dire exactement la même chose, Highway to Hell, parce qu'on est carrément dessus et que forcément c'est quelque chose qui me parle plus que les autres sujets.
Quelque chose que vous souhaiteriez ajouter?
Soyez curieux et pas forcément bloqué par le fait que Ariane et Nino s'adressent à des enfants, parce que je pense qu'on est les deux premiers à être surpris par tout ce qu'on peut apprendre par l'intermédiaire de cette série.
Puis je pense que la question de l'autre monde que vous soulevez, ça vaut pour l'histoire, ce sont d'autres mondes, de gens qui ont vécu avant nous, on a tendance à les juger avec nos yeux d'aujourd'hui, comme on le fait pour d'autres peuples par exemple. Et ça me paraît très important de développer sa curiosité, de laisser place aussi à des formes d'imaginaire, d'imagination, mais admettre l'idée que d'aller vers l'imaginaire des autres aussi, voilà, l'imaginaire viking, l'imaginaire des Égyptiens, c'est très important pour comprendre le comportement qu'ont eu ces gens, et ça nous ouvre aussi, il me semble, au respect, quoi, voilà, respecter ceux qui ont vécu dans le passé et l'humilité, c'est aussi respecter ceux qui vivent autour de nous aujourd'hui.
Merci.